La voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour et bon début de journée à l'écoute de la voix de l'Amérique en direct du Studio 13 ce mardi. Nicolas Pineau et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une, Washington préoccupé par le projet de révision constitutionnelle au Burkina Faso après la manifestation monstre hier à Ouagadougou.
Maintenant là, ça passe ou ça casse. Maintenant, c'est vraiment la patrie ou la mort. Nous avons compris que le changement, c'est maintenant ou jamais.
Barack Obama annonce des progrès dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. À Bamako, la peur gagne les habitants.
La maladie, quand même, en toute franchise, c'est une maladie très grave et contagieuse. Et tout le monde doit prendre précaution pour éviter. Enfin, moi, j'ai peur.
Sans oublier les sports et la musique en fin d'émission, mais avant cela, le journal. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonjour à tous.
Washington préoccupé par le projet de révision constitutionnelle au Burkina Faso pour permettre le maintien au pouvoir de Blaise Compaoré, la porte-parole du département d'État, Jennifer Psaki, a déclaré que les États-Unis sont inquiets de l'esprit et des intentions de ce projet de loi. C'est demain que l'Assemblée burkinabé doit examiner le texte visant à réviser l'article 37 de la loi fondamentale pour faire passer de 2 à 3 le nombre maximum de quinquennats présidentiels.
Car cela permettrait à Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987, de pouvoir se présenter à la présidentielle de 2015. C'est pour dire non à ce projet que des centaines de milliers de personnes sont descendues hier dans les rues de Ouagadougou. Un rassemblement historique de par son ampleur. Zoumana Wonogo était sur place pour La Voix de l'Amérique.
L'opposition a réussi deux batailles, celle de la mobilisation des populations et celle faisant de Ouagadougou une ville morte. Le chef de file de l'opposition a dit que la lutte passe à la vitesse supérieure. Zéphirin Diabré.
Maintenant là, ça passe ou ça casse. Maintenant, c'est vraiment la patrie ou la mort. Nous avons compris que le changement, c'est maintenant ou jamais. Hier, nous étions dans la phase de dissuasion. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de confrontation.
Pour justifier cette radicalisation dans la lutte, écoutons les explications du maître Benewende Sankara.
Nous avons affaire à un chef d'État têtu. Nous avons, à partir de maintenant, lancé un mot d'ordre de désobéissance civile.
La marche meeting s'est déroulée sans incident, sauf pour les militants du balai citoyen qui ont été gazés par la police quand ils ont voulu investir l'Assemblée nationale pour en faire leur camp de base en attendant le jeudi, jour du vote de la loi. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Plus de 12 ans après les faits, la justice française a mis fin aux poursuites dans l'enquête sur le naufrage du ferry sénégalais, le Djola. Un non-lieu qui scandalise les familles des victimes, qui parlent d'un déni de justice. Près de 1900 personnes avaient trouvé la mort au large de la Gambie en septembre 2002.
Les efforts déployés par les États-Unis commencent à avoir un impact, affirme Barack Obama, le président américain qui cite des progrès concernant la lutte contre l'épidémie d'Ebola au Libéria après s'être entretenu avec Samantha Power, l'ambassadrice américaine à l'ONU qui a achevé sa tournée en Afrique de l'Ouest.
À Addis Abeba, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a rappelé que la transmission du virus continue à prendre de vitesse la mobilisation de la communauté internationale. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé hier que sur la cinquantaine de centres de traitement d'Ebola prévus, une vingtaine restait encore à pourvoir en personnel médical étranger.
En Côte d'Ivoire, l'ancien ministre de la Défense, Moïse Lida Kouassi, a été incarcéré pour des faits datant en 2012-2013. D'après son avocat, il est inculpé pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, constitution de bandes organisées et assassinat. Cadre du FPI, le Front populaire ivoirien, Moïse Lida Kouassi avait été arrêté jeudi dernier. Le FPI exige sa libération et dénonce l'intensification du harcèlement contre ses militants à l'approche de la présidentielle l'année prochaine.
Coup de théâtre hier à Abuja. Le président de la chambre basse du Parlement nigérian a quitté le parti au pouvoir pour rejoindre la principale coalition de l'opposition. Un précieux coup de pouce pour les opposants avant les élections de 2015. Jacques Aristide.
Quatrième personnalité du pays, Aminu Tambuwal a donc claqué la porte du Parti démocratique du peuple pour adhérer au All Progressive Congress. Le président de la Chambre des représentants a fait part de sa décision dans un discours en session plénière. Son départ n'a pas choqué, d'autant que l'homme n'a jamais caché son mécontentement depuis l'arrivée de Goodluck Jonathan à la tête du pays. Au cours des mois écoulés, il y a eu d'autres défections, mais plutôt dans le camp de l'opposition, certains de ses membres rejoignant le parti au pouvoir. Aminu Tambuwal fait partie de la puissante aristocratie de Sokoto, siège de la plus haute autorité islamique du Nigeria, note l'agence Reuters. Ce qui pourrait donner à son départ une dimension confessionnelle aux prochaines échéances électorales, le président Goodluck Jonathan étant un chrétien ayant accédé au pouvoir après la mort de son prédécesseur, Umaru Yar'Adua, en 2009. Les nordistes n'ont pas digéré son élection en 2011, estimant que le chef de l'État nigérian avait violé une loi non écrite voulant que le pouvoir alterne entre le nord et le sud du pays tous les deux mandats.
Omar El-Béchir propose d'accueillir une réunion sur la crise libyenne. En visite à Khartoum, le premier ministre libyen Abdallah El-Thani a accepté l'idée d'une rencontre entre les principaux acteurs de ce conflit. Cette proposition du président soudanais intervient alors que le chef de la mission de l'ONU en Libye a fait part hier de la grave préoccupation de la communauté internationale face à la poursuite des combats entre milices rivales dans l'est et l'ouest du pays.
Au Cameroun, trois journalistes ont été inculpés hier de non-dénonciation de faits susceptibles d'atteindre à la sûreté de l'État. Ils sont placés sous surveillance judiciaire et interdits de quitter le pays. Michel Joseph.
Rodrigue Tongué du quotidien Le Messager a été inculpé hier de non-dénonciation par le tribunal militaire de Yaoundé. Son avocat, Maître Claude Assira, dit que ce reproche est non fondé. Deux autres confrères, Félix Syriac et Bolé Bola, du journal Mutation, et Baba Wamé, enseignant de cyberjournalisme, ont été inculpés des mêmes faits. Ils sont placés sous surveillance judiciaire avec interdiction de sortir du territoire ou de faire des déclarations publiques. Le tribunal militaire a estimé qu'ils avaient reçu des informations concernant la sécurité d'État et n'en ont pas informé les autorités. Dans la même affaire, le notaire Abdoulaye Harissou et l'opposant Abdoulaye Sidiki ont été arrêtés en septembre. Ils sont soupçonnés d'entretenir des liens avec des groupes armés actifs en Centrafrique voisine. Reporters sans frontières a dénoncé la semaine dernière le musellement de la presse au Cameroun après l'arrestation de trois autres journalistes accusés de diffamation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 5h37, temps universel. Dans le reste du monde, les premiers renforts de combattants kurdes irakiens à destination de la ville syrienne kurde de Kobané sont arrivés cette nuit en Turquie. Ces Peshmerga, dont le nombre n'a pas été précisé, devraient très rapidement se rendre à Kobané, assiégée depuis des semaines par les djihadistes. Cette arrivée coïncide avec le feu vert d'Ankara il y a une semaine sous la pression américaine.
Au Maroc, trois hommes qui s'apprêtaient à rejoindre le groupe État islamique ont été interpellés. D'après le ministère de l'Intérieur, cité par l'agence MAP, il s'agit d'un Français, d'un Franco-Marocain et d'un Algérien.
La Russie a averti hier qu'elle reconnaîtrait les résultats des élections qu'organiseront les séparatistes dans l'est de l'Ukraine, défiant ainsi Kiev avant la réunion de l'Union européenne consacrée aux sanctions économiques contre Moscou. Le point avec Elie Sango.
Les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine préparent leurs propres élections présidentielles et législatives prévues pour le 2 novembre dans les républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk. Nous reconnaîtrons bien entendu les résultats, a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, ajoutant que ce sera une importante étape dans la légitimation du pouvoir dans ces deux régions. Son homologue américain John Kerry condamne cette position du Kremlin. Pendant sa visite au Canada, le secrétaire d'État Kerry a déclaré que cela constituerait une violation claire des engagements pris par la Russie et les séparatistes à travers les accords de Minsk qui avaient ouvert la voie à un cessez-le-feu le 5 septembre. Pour sa part, le président ukrainien Petro Porochenko a dénoncé les déclarations de Moscou qui, selon lui, mettent en danger les processus de paix censés régler un conflit qui a fait plus de 3700 morts.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une réunion d'urgence ce mercredi pour évoquer les nouveaux projets de colonisation d'Israël à Jérusalem-Est. Et toujours à New York, l'Assemblée générale de l'ONU a encore une fois adopté hier une résolution demandant la levée de l'embargo américain contre Cuba. Félix Yepassis Zembrou.
La résolution a été approuvée par 188 pays. Les États-Unis et Israël ont voté contre et trois autres pays se sont abstenus. Le même vote a lieu chaque année depuis 1982 et le même résultat avait été enregistré l'an dernier. L'embargo commercial des États-Unis contre Cuba a été mis en place en 1962 par le président John Fitzgerald Kennedy. La Havane et Washington n'ont plus de relations diplomatiques, mais possèdent chacun une section d'intérêt qui fait office d'ambassade. Le président Barack Obama a assoupli les règles qui s'appliquent aux voyages vers l'île, mais maintient une ligne dure face à ce petit pays à 150 km des côtes de Floride. Plusieurs sondages récents révèlent que la majorité des Américains sont favorables à un changement de politique à l'égard de Cuba, y compris en Floride où vit une importante communauté cubano-américaine.
Une fusée de la société américaine Orbital Science transportant une capsule non habitée à destination de la Station spatiale internationale a explosé la nuit dernière, quelques secondes après son lancement. Il n'y a eu aucun blessé, aucun membre du personnel de la base n'est manquant, a indiqué la NASA sur son site internet. Il s'agit du premier accident depuis que la NASA a commencé à recourir au secteur privé pour ravitailler l'ISS.
Le Texas a exécuté son 10e condamné à mort cette année après le rejet de l'ultime recours du prisonnier par la Cour suprême des États-Unis. Miguel Paredes a été déclaré mort par injection létale à Huntsville. Il avait été condamné à mort pour le meurtre en 2000 de 3 membres d'un gang rival.
C'est tout pour ce journal. De retour avec vous, Nicolas Pineau, pour Le Monde aujourd'hui. Merci de votre fidélité à La Voix de l'Amérique. On reparle de l'épidémie d'Ebola et la peur qui s'est aussi installée chez certains Américains, notamment les membres de la diaspora africaine de New York. Avec les mesures de dépistage dans les principaux aéroports américains, les Africains qui vivent aux États-Unis craignent la psychose actuelle. Ils craignent qu'elle n'ait de graves répercussions économiques ici et dans leur pays d'origine. Ils redoutent surtout une éventuelle interdiction de voyage entre les États-Unis et les pays africains touchés par l'Ebola. Le point avec Lionel Gaïma.
Pour des milliers d'immigrés africains, l'interdiction de tels voyages pourrait avoir des conséquences catastrophiques, avertit le leader communautaire Kofi Boateng, directeur ghanéen-américain du West Harlem Development Corporation. Beaucoup d'entre eux craignent de ne pas pouvoir retourner au pays pour assister à des choses aussi importantes que les obsèques d'un être cher ou s'occuper de leurs affaires. Cela signifie aussi que même les officiels gouvernementaux qui doivent venir à la tête des missions commerciales ou diplomatiques et rendre visite à leurs communautés respectives ne pourraient pas le faire. C'est ça la crainte. Selon Kofi Boateng, cette phobie a déjà affecté la vie des gens à Harlem, où existent de nombreux salons de coiffure tenus par des Africains. Les clientes se font de plus en plus rares et ces salons subissent ainsi d'importantes pertes financières, bien que beaucoup de coiffeuses n'aient pas visité leur pays d'origine depuis de nombreuses années. C'est la même chose pour les chauffeurs de taxi ouest-africains qu'évitent des passagers new-yorkais qui craignent d'être infectés rien qu'en entrant dans le véhicule. Bien entendu, il s'agit de craintes irrationnelles que ne justifient aucun fait scientifique. Les responsables des services de santé publique ont beau expliquer les modes de transmission du virus Ebola, les préjugés existent. De nouveau, Kofi Boateng. Les Africains ont peur que leurs enfants soient un jour chassés de leurs écoles ou qu'eux-mêmes perdent leurs emplois si la mauvaise information sur la transmission du virus persistait ou si l'interdiction des voyages venait à se concrétiser. Ils ne pourraient pas voyager et les membres de leur famille ne pourraient pas obtenir des visas. Outre le désarroi de la diaspora, il est nécessaire maintenant d'adapter aux nouvelles réalités certaines traditions africaines, notamment le traitement des corps des morts. Pour sensibiliser sa communauté, Kofi Boateng organise des forums locaux pour aider à sensibiliser non seulement ses membres, mais aussi les parents au pays. Il faut surtout éviter de toucher au corps d'une victime de l'Ebola. Tout contact avec des fluides corporels constitue assurément un danger de mort. Les poignées de main prolongées, chose fréquente au mariage et funérailles, sont également déconseillées. Les progrès semblent plutôt mitigés. Vendredi, deux écoliers d'origine sénégalaise ont été battus par des condisciples qui criaient « Ebola ».
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le bras de fer de tous les dangers au Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré défiera-t-il ses opposants en briguant un nouveau mandat? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Autre peur sur le continent cette fois, au Mali. Après le décès d'une fillette la semaine dernière et malgré son inhumation, la peur s'est installée chez de nombreux Maliens. Exemple à Bamako avec ce reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
L'enregistrement du premier cas de la fièvre hémorragique à virus Ebola a été une surprise pour la population de Kaï et pour cause.
Rien n'a été fait pour prévenir cette maladie. Et là, c'est une déception totale. Même l'équipe qui a été demandée à Bamako a pris 48 heures de retard pour une épidémie qui était censée prévenir au Mali.
Vous voyez, on disait qu'il y avait des sites qui étaient prévus à Kaï et environnant. Mais à la suite du classement de la maladie, ils se rendent compte que cette site n'existait même pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Dans la capitale malienne, les avis divergent sur l'existence d'Ebola au Mali. Écoutons ces deux taximans.
Au Mali, à Kaï, l'intéressé, mais moi je le connais, il est bel et bien vivant. Ebola là, c'est faux. Ngalondo, c'est faux.
La maladie, quand même, en toute franchise, c'est une maladie très grave et contagieuse. Et tout le monde doit prendre précaution pour éviter. Enfin, moi j'ai peur.
Face à la polémique née autour de la présence de cette maladie au Mali, certaines entreprises et services étatiques ont installé des dispositifs sanitaires, comme à l'agence Bank of Africa de Banankabougou.
L'initiative mise en place, la lavage des mains, avec l'eau de Javel, avec l'eau là, est très tellement salité pour moi. Et je suis très satisfait, très très satisfait. Et que nous prions que toute cette maladie-là disparaisse vite et que nous soyons tous ensemble, que nous nous restons ensemble.
Pour ces jeunes étudiants, le gouvernement malien doit se réveiller afin de déclencher une véritable campagne de sensibilisation qui ne doit pas se limiter aux médias étatiques seulement.
Moi, je pense que la meilleure formule est d'informer les gens, les sensibiliser, parce que c'est une nouvelle maladie qu'on ne connaît pas. Notre habitude quotidienne ne nous permet pas de faire des rencontres et de beaucoup de choses, quoi. Donc, j'aimerais que vous, les médias, de sensibiliser les uns et les autres pour une bonne approche afin que les gens soient mieux informés.
En plus des gestes qui sauvent, les Bamakois sont en train d'utiliser certains produits pour éviter la fièvre, pour éviter une contamination. Ils se réjouissent aussi des dispositifs sanitaires mis en place.
Le Mali n'avait pas encore découvert ça, mais on vient tout récemment de voir qu'un cas rencontré au Mali ici. On voit que c'est encore plus grave. Lorsqu'on prend des précautions pour ça, on verra que vraiment ça ira très 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 bien. Trop satisfait, je veux dire.
Pour barrer la route à Ebola au Mali, les actions citoyennes se multiplient, même si certaines ne sont pas encouragées par le gouvernement qui pense que les organisations de la société civile font de la surenchère autour de la maladie. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Il est 5h47, temps universel, vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Parlons du climat des affaires qui s'améliore en Afrique. C'est la Banque mondiale qui le dit dans sa dernière édition du rapport Doing Business. Les gouvernements ont entrepris de nombreuses réformes pour améliorer la vie des entrepreneurs locaux. Camille Grosdidier a joint l'un des auteurs de ce rapport, Santiago Crossi Downs.
Un point de vue régional, Europe de l'Est et l'Asie centrale est une des régions la plus dynamique puisque 85% des économies qui forment cette région ont réformé dans au moins un des domaines couverts par notre publication. L'Afrique subsaharienne est la région qui a le plus grand nombre de réformes en termes absolus. Ça s'est traduit dans des très bons résultats pour certains des pays de la région puisque si vous voyez ce que nous on appelle top improvers, c'est les pays qui ont fait le plus de progrès cette année et qui ont réformé dans au moins 3 domaines du rapport Doing Business, 5 de ces 10 pays font partie de l'Afrique subsaharienne, à savoir par exemple le Bénin, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo. Donc on voit des résultats très positifs et aussi donc que cette tendance de réforme dans la région continue. 74% des pays de la région ont réformé. Donc la volonté des gouvernements d'améliorer le climat des affaires est là encore.
Et du point de vue du classement général?
Les pays membres de la OCDE reste encore l'exemple à suivre en termes de réglementation des affaires, puisqu'ils comblent la partie haute du classement, si vous le voulez. Mais en ce qui concerne les régions les plus dynamiques, c'est l'Afrique subsaharienne et c'est aussi la région de l'Europe de l'Est et l'Asie centrale.
Votre rapport mentionne notamment qu'il y a une dizaine d'années, pour lancer un business, il fallait 57 jours à un petit entrepreneur au Sénégal et qu'aujourd'hui, c'est seulement 6 jours?
Exactement. On a vu qu'il y a des efforts qui sont faits pour améliorer les différents processus administratifs qui concernent les petites et moyennes entreprises. Donc, à savoir, nous, dans notre rapport Doing Business, on a deux types d'indicateurs, des indicateurs qui vont mesurer l'efficacité et la complexité pour obtenir un objectif réglementaire, par exemple créer une entreprise. Et on va avoir des indicateurs qui se centrent sur les institutions judiciaires. Donc on constate qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites dans les deux domaines, mais spécialement dans les domaines qui visent à réduire la bureaucratie, à réduire les coûts, à réduire les temps nécessaires pour obtenir des objectifs réglementaires, comme ça peut être créer une entreprise ou obtenir un permis de construire ou obtenir une connexion au réseau électrique, par exemple.
Santiago Crossi Downs, co-auteur du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Coup de projecteur ce matin sur cette initiative au Ghana. Un nouveau centre de recyclage d'appareils électroniques usagés a vu le jour pour traiter les substances nocives contenues dans ces machines. Depuis des années, de nombreux Ghanéens vivant dans l'extrême pauvreté récupèrent ces vieux appareils et les brûlent en plein air pour en extraire les métaux afin de se faire un peu d'argent. Jacques Aristide nous en dit plus.
Une fumée noirâtre se propage à Accra, la capitale ghanéenne, provenant d'une rivière morte dans le quartier d'Agbogbloshie. Elle émane de tas de rébus électroniques détruits par un feu allumé délibérément par des marchands de ferraille. Ce sont notamment de vieux téléviseurs, ordinateurs et des câbles qui sont brûlés. Les flammes font fondre le plastique, ce qui reste, ce sont les métaux et tout particulièrement le cuivre. Le plomb présent dans le sol de la zone dépasse tous les records, jusqu'à 100 fois supérieur à la normale. Pire, une étude a démontré la présence de résidus chimiques dans le lait maternel des mères d'Accra et elle est liée à la pollution produite à Agbogbloshie. Les hommes qui s'activent sur cette décharge électronique viennent pour la plupart du nord du Ghana, la partie la plus désœuvrée du pays. Soumani Abdul Karim en fait partie.
The reason why they don't know how they remove the wire.
Ils brûlent ces appareils parce qu'ils ne savent pas comment en retirer le fil métallique puis le cuivre.
Une pratique très dangereuse pour la santé humaine à laquelle une organisation environnementale, Green Advocacy Ghana, veut mettre un terme. Elle a récemment ouvert un centre de recyclage à Agbogbloshie pouvant ôter en toute sécurité tout le plastique qui recouvre le fil de cuivre. Le patron de l'ONG, Yor Amayor Osei.
Ces gens savent que leur pratique de combustion de ces déchets électroniques affecte leur santé. Ils étaient impatients de voir le changement. Ils ne peuvent pas stopper ce qu'ils font parce que c'est leur seul moyen de subsistance. Ils le font pour survivre, mais grâce à ce centre, ils ont réalisé qu'il n'y a pas lieu de continuer ainsi et se faire du mal.
Mais tout le monde à Agbogbloshie n'en est pas totalement convaincu. Certains jeunes sont contre la nouvelle installation, craignant qu'elle nuise à leur gagne-pain. Pour le président de l'association des marchands de ferraille d'Accra, plusieurs organisations ont voulu changer les choses à Agbogbloshie, mais peu ont tenu leurs promesses. Abdul Rahman Abdoulaye est toutefois d'avis que le centre de recyclage portera ses fruits.
Nous ne pouvions rien faire contre la combustion en plein air. Néanmoins, nous disposons maintenant des machines appropriées pour cesser de brûler ces appareils comme nous le faisons. Désormais, tout ira bien pour nous.
Le centre de recyclage n'est cependant pas encore pleinement opérationnel. Et pour l'heure, de la fumée noirâtre continue d'émaner d'Agbogbloshie et de se répandre sur la capitale ghanéenne.
Place au sport. À présent, dans cette émission, nous accueillons Timothée Donangmaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Nico.
Parlons football. La course au Ballon d'Or 2014 est lancée avec la publication hier par la FIFA de sa liste des 23 joueurs retenus.
Parmi eux, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Arjen Robben et l'Ivoirien Yaya Touré. 6 champions du monde 2014 font partie du lot, à savoir Mario Götze, Toni Kroos, Philippe Lahm, Thomas Müller, Manuel Neuer et Bastian Schweinsteiger. La FIFA réduira cette liste à 3 noms le 1er décembre avant de décerner le Ballon d'Or le 12 janvier à Zurich.
La FIFA qui a également publié plusieurs recommandations en rapport avec l'épidémie d'Ebola et le Mondial des clubs prévu du 10 au 20 décembre au Maroc.
Selon la Fédération internationale, les préparatifs de cette compétition se poursuivent comme prévu. Elle dit soutenir la décision de la Confédération africaine de football d'organiser sur terrain neutre les matchs des pays à forte transmission du virus Ebola, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. La FIFA se dit toutefois prête à revoir sa position en cas de recommandation de l'OMS. Le Maroc a demandé le report de la CAN 2015 du fait de l'épidémie d'Ebola, mais la Confédération africaine a fait savoir qu'elle maintient les dates initialement retenues du 17 janvier au 8 février.
Un mot de tennis avec quelques résultats du Masters de Paris.
Novak Djokovic a défait Philippe Kohlschreiber en 2-7, 6-3 et 6-4 au deuxième tour. Le numéro 1 mondial, qui vient d'être papa, doit batailler dur pour terminer la saison en tête de classement. Toujours à Paris hier, Fernando Verdasco a défait Gilles Simon par 2-7-1 au deuxième tour et victoire de Kevin Anderson en 2-7 contre Santiago Giraldo.
Et le retour de la NBA, le championnat de basket nord-américain. La saison a démarré hier de belle manière pour le champion en titre, San Antonio, qui a battu sur le fil Dallas 101-100. Orlando s'incline à la Nouvelle-Orléans 84-101. C'était Timothée Donormaille pour la page des sports. Place à présent à la musique, nous retrouvons Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Nico. Ce matin, on écoute le groupe le plus célèbre d'Haïti. Il a plus de 40 ans des triomphes à travers le monde. Hein. Antilles, Amérique du Nord, Afrique et Europe. Tabou Kombo se proclame l'ambassadeur du compas, ce rythme typique d'Haïti hein, qui se chante en français, en anglais, en espagnol et en créole. On écoute Balancé.
Vive longtemps, là, la science a développé. Fusée saute dans l'espace, atterrit dans vous n'importe avion. Nous papes s'appétiser, ça crée de prendre son sérieux. Si nous voulons apprécier. Avec la science, la bout combo a marché pas à pas. Sac modèle, c'est yo nous toujours adopté. Composition nous yo, toujours pour l'autre couleur. C'est ça le fait.
Oui, la popularité du groupe Tabou Kombo l'a amené à prendre des positions citoyennes. Il dénonce la condition du peuple noir dans ses chansons et s'élève aussi contre la mauvaise image d'Haïti.
Oui, et aussi la propagation du sida dans l'île et le mauvais traitement infligé aux réfugiés haïtiens dans la République dominicaine qu'aux États-Unis. Les musiciens du Tabou Kombo ont fondé une association Manger, Lire et Espérer afin de lutter contre les principaux fléaux en Haïti.
Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Nico. Coucou à tous les étudiants à l'université de Bamako.
Roger Muntou, que vous retrouvez tous les soirs, 20h temps universel, dans le RM Show. C'est sur ces douces notes de musique haïtienne qu'Anne Albertson nous revient pour le rappel des grands titres de l'actualité.
Washington, préoccupé par le projet de révision constitutionnelle au Burkina Faso pour permettre le maintien au pouvoir de Blaise Compaoré. La porte-parole du département d'État a déclaré que les États-Unis sont inquiets de l'esprit et des intentions de ce projet de loi. Plus de 12 ans après les faits, la justice française a mis fin aux poursuites dans l'enquête sur le naufrage du ferry sénégalais le Djola, un non-lieu qui scandalise les familles des victimes qui parlent d'un déni de justice. Les premiers renforts de combattants kurdes irakiens à destination de la ville syrienne kurde de Kobané sont arrivés cette nuit en Turquie. Ces Peshmerga, dont le nombre n'a pas été précisé, devraient prochainement se rendre à Kobané, assiégée par les djihadistes depuis des semaines. Et la Russie a averti hier qu'elle reconnaîtrait les résultats des élections qu'organiseront les séparatistes de l'Est de l'Ukraine, défiant Kiev avant la réunion de l'Union européenne consacrée aux sanctions économiques contre Moscou.
Ainsi s'achève notre émission Le Monde aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Nous allons saluer ce matin Abdoulaye Diallo à Ouagadougou et Alphonse Rally qui vit à Durban, c'est en Afrique du Sud. Comme eux, retrouvez-nous sur notre page Facebook, La Voix de l'Amérique. Anne Albertson et Nicolas Pinault vous ont accompagné ce matin. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.